présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La fin de l'état d'urgence sanitaire en débat à l'Assemblée. L'opposition reproche au gouvernement de conserver plusieurs mesures restrictives après le 10 juillet. Le reportage de Rosalie Lafarge dans un instant. Le respect de la distanciation physique aboli en maternelle. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer vient de donner des détails sur le nouveau protocole sanitaire en vigueur dès la semaine prochaine. Nous l'écouterons. L'économie française donne des signes de reprise encourageants selon la dernière note de l'INSEE. Les détails avec Catherine Pétillon. L'écho d'après, notre rendez-vous hebdomadaire consacré ce soir à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Leur raison d'être gravée dans la loi Pacte n'est plus une priorité avec la crise économique. Un dossier préparé par Anne-Laure Choix. Forte tension diplomatique entre la France et la Turquie. Un navire turc a pris à partie une frégate française au large de la Libye la semaine dernière et Paris exprime sa colère devant l'OTAN. Dans ce journal, également le reconfinement à Pékin, 137 nouveaux cas de Covid dans la capitale chinoise. Le reportage de notre correspondante Dominique André. La France sortira de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet prochain, mais le gouvernement compte bien organiser cette sortie. C'est tout l'enjeu du débat qui s'est ouvert aujourd'hui à l'Assemblée. Les oppositions de gauche et de droite soupçonnent Emmanuel Macron de vouloir maintenir un état d'urgence qui ne dirait pas son nom. Un soupçon nourri par le fait que plusieurs dispositions restrictives seront conservées jusqu'à l'automne. Le reportage à l'Assemblée de Rosalie Lafarge.
Le socialiste Hervé Solignac met les pieds dans le plat d'entrée de jeu.
J'aurais dû me méfier de ce titre étrange. Un projet de loi qui organise la fin de l'état d'urgence. Un état d'urgence, ça se déclare ou ça se lève.
Même sentiment pour Philippe Gosselin du côté de Les Républicains, inquiet de ce régime dit transitoire.
C'est une sortie qui n'en est pas une. On dit qu'il n'y a plus d'état d'urgence, mais en réalité, on continue à porter atteinte à des libertés essentielles. La liberté de réunion et le droit de manifester, la liberté aussi d'aller et venir. Donc ça nous paraît inacceptable. C'est un texte liberticide qui est inutile et à contre-temps.
Ce texte, effectivement, permet de restreindre la circulation, les rassemblements, l'accueil du public dans certains établissements. On en a encore besoin, insiste la rapporteure en marche du texte, Marie Guévenoux.
Il faut pouvoir maintenir le fait que certains rassemblements, à partir d'un certain nombre de personnes, puissent être limités, voire interdits. Il faudrait pouvoir maintenir le port du masque dans les transports en commun. Ça peut être aussi limiter la circulation vers des départements fragiles comme l'outre-mer.
Et si on n'organise pas cette transition, on nous le reprochera, appuie le MoDem à travers le député Erwan Balanante.
Imaginons qu'en plein mois d'août, quand tout le monde va être en vacances, on ait besoin de prendre des décisions et que ces décisions n'aient pas été prévues. Je pense que cette même opposition nous dirait qu'on n'a pas été prudent. Donc on est prudent et la prudence exige que ça se fasse progressivement.
Selon la majorité, le texte donne un cadre général pour appliquer des dispositions au niveau local. S'il fallait reconfiner tout le pays, le gouvernement devrait alors pour le coup de nouveau décréter un état d'urgence sanitaire.
Rosalie Lafarge depuis le Palais Bourbon. Le gouvernement qui travaille également sur le retour obligatoire des écoliers et des collégiens dès lundi prochain. Le ministère de l'Éducation nationale prépare un nouveau protocole sanitaire qui assouplit les contraintes. Et Jean-Michel Blanquer vient de donner des détails sur cet assouplissement.
À l'école maternelle, vous n'avez plus de distanciation physique, c'est la même règle que pour les crèches, par réalisme, parce qu'on sait que ça n'est pas facile de faire respecter cette distanciation physique, et puis parce que le conseil scientifique nous disait que pour cet âge-là, on peut faire cela d'après les données que nous avons. À l'école élémentaire, c'est à ses voisins, puisque l'idée c'est qu'on essaye de faire respecter un mètre, mais il y a certaines classes où, quand on recevra tous les élèves, parfois on sera obligé d'avoir un peu moins d'un mètre, et donc c'est possible à l'école élémentaire. Et puis au collège, la distance d'un mètre doit être respectée, et quand ça n'est pas possible, parfois pour des raisons physiques locales, alors le port du masque est obligatoire pour les collégiens lorsque cette distance d'un mètre n'est pas possible sur le plan latéral. Voilà l'essentiel de l'allègement sur le plan de la distance physique. Après, il y a d'autres sujets. Beaucoup de choses sont maintenues, hein, le fait de se laver les mains, les gestes barrières, toutes ces choses qui, au fond, sont naturelles aujourd'hui dans notre vie quotidienne et qui font partie aussi, finalement, de l'éducation à l'hygiène et à la santé que nous développons chez les enfants en ce moment.
Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, interrogé par nos confrères de Public Sénat. Sauf rebondissement, le deuxième tour des élections municipales se tiendra bien le dimanche 28 juin prochain. Le Conseil constitutionnel a validé aujourd'hui la date fixée par le gouvernement. Les sages sondages ont rejeté une question prioritaire de constitutionnalité qui contestait le report du scrutin en raison de la crise sanitaire. Le Conseil estime que les modalités du deuxième tour, plus de 3 mois après le premier tour, sont justifiées par un motif impérieux d'intérêt général. La pandémie a plongé la France dans une profonde récession et les annonces de suppression d'emplois se multiplient. Dernier exemple, TUI France, le premier opérateur touristique français. Il va supprimer 583 postes, soit les 2/3 de ses effectifs. Mais si l'on en croit l'INSEE, le bout du tunnel est peut-être en vue. Catherine Pétillon, la dernière note de conjoncture de l'Institut, relève des signes de reprise.
La situation économique reste très dégradée, mais elle s'améliore un peu. Voilà la touche optimiste de cette nouvelle note de conjoncture publiée par l'INSEE. L'organisme statistique revoit ses prévisions et anticipe une baisse de l'activité finalement moins importante, 12% de moins par rapport à la situation avant crise. C'est beaucoup, mais c'est 3 fois moins qu'au début du confinement. L'amélioration de la situation sanitaire a en effet permis une reprise progressive. C'est le cas par exemple pour le trafic de fret ferroviaire, indicateur global d'activité. Dans la construction, la perte d'activité désormais 2 fois moins importante qu'en mai témoigne de la reprise des chantiers. Même pente positive dans l'industrie, après une perte de 35% d'activité en mai, on est désormais à 15% de moins que la normale, un chiffre dû aussi au ralentissement à l'international. La reprise économique est donc très nette depuis la mi-mai, après un mois d'avril qui restera sans doute dans les annales comme l'un des pires mois qu'ait connu l'économie française en temps de paix, écrit l'INSEE, soulignant le rôle joué dans cette reprise par les dispositifs d'aide comme le chômage partiel ou le fonds de solidarité pour les TPE. L'économie est toujours en sommeil, souligne la note, mais dans des conditions qui rendent un redémarrage possible. Difficile néanmoins de savoir à quelle vitesse, et cela d'autant moins que les secteurs ont été très inégalement touchés. Par ailleurs, impossible d'évaluer à ce stade les répercussions qu'auront les protocoles de sécurité sanitaire sur la productivité.
Catherine Pétillon, merci. Comme chaque mercredi dans ce journal, place à l'écho d'après, notre dossier économique consacré justement à la sortie de crise. L'année 2020 aurait dû être celle de la raison d'être des entreprises. La loi Pacte inscrit dans les statuts d'une société ses objectifs sociaux et environnementaux. Mais la crise sanitaire a changé la donne face à l'urgence économique. La responsabilité sociale et environnementale n'est plus une priorité pour les entreprises. Un dossier préparé ce soir par Anne-Laure Choin.
La discussion autour de la mission de l'entreprise, son impact sur l'environnement, son rôle dans la société ne date pas d'hier. À mesure que s'est transformée la structure des plus grandes d'entre elles, que leur actionnariat s'est massifié et que leur élément moral, c'est-à-dire l'intention qui a présidé à leur création, se sont dilués pour une recherche de maximisation des profits, un autre discours se faisait également jour, celui sur la moralisation de l'entreprise qui a mené en France jusqu'à la loi Pacte. Bertrand Valliorgue est professeur de stratégie et de gouvernance des entreprises à l'Université Clermont-Auvergne, spécialiste de l'altergouvernance. Il revient sur le moment où l'objet des entreprises s'est transformé.
Il y a quand même un tournant qui se met en place dans les années 70-80 où on considère que les entreprises sont des supports pour financer les retraites. Ça nous vient des États-Unis qui ont un système de financement des retraites par capitalisation. Et donc le mode privé qui se met en place à partir des années 70-80, c'est de dire on va faire rentrer de manière plus directe les actionnaires dans l'entreprise parce que ça va nous aider à financer les retraites. Et petit à petit, on a mis en place toute une industrie financière qui fait que depuis le début des années 2000, l'entreprise est considérée comme un actif financier qui permet à des fonds de pension, à des gestionnaires d'actifs de faire des placements et d'assurer le financement des retraites. Et à un moment donné, on se rend compte que cette vision de l'entreprise, c'est une impasse et que il faut refonder l'entreprise et lui redonner un sens beaucoup plus général et centré sur les services, les apports qu'elle va amener à la société. Mais il y a aussi un deuxième mouvement complémentaire qui consiste à se rendre compte que l'entreprise elle a un impact déterminant sur la société et l'environnement. C'est un acteur politique central dans le fonctionnement de nos sociétés. Et cet acteur politique, il est absolument impossible de légitimer son action en fonction d'un projet de maximisation du profit pour des actionnaires. Donc, il y a eu un débat pour redéfinir ce qu'est une entreprise et les intérêts qu'elle doit servir. Et ça, ça a donné lieu à la loi Pacte.
Une loi Pacte permettant donc d'inscrire dans le statut des entreprises une raison d'être, voire, pour celles qui le souhaitent, de devenir des entreprises à mission. C'est le cas, par exemple, de Danone, qui le 26 juin prochain devrait voter ce nouveau statut en Assemblée Générale. Sauf que la crise du coronavirus et par la suite la crise économique sont venues sérieusement ébranler un mouvement qui avait pourtant l'air bien parti. Bertrand Valliorgue.
Ce qui était intéressant avec la loi Pacte, c'était qu'elle a réussi à embarquer un peu tout le monde. Des dirigeants, des parties prenantes, des syndicats, même le MEDEF. Ce que je crains que va créer la crise du Covid-19, c'est qu'elle va rompre l'entente, en fait. Et vous allez avoir des raidissements et des postures qui vont se durcir. Vous allez avoir des gens dans le MEDEF vont dire, mais attendez, la raison d'être, ça c'était dans le monde d'avant. Aujourd'hui, la raison d'être, c'est la survie. C'est pas ça l'urgence. Vous allez avoir à l'inverse des parties prenantes en disant mais l'urgence écologique est encore plus présente et encore plus nécessaire et la raison d'être est plus que jamais le sujet d'actualité sur lequel vous devez travailler. Le risque qu'il peut y avoir, c'est que ça polarise et radicalise les positions des uns et des autres et qu'on ait un vrai blocage et que ça n'avance plus du tout.
Le chercheur estime qu'il faudrait faire un bilan d'ici 5 ans. Est-ce que les entreprises ayant adopté une raison d'être ont engagé les chantiers permettant de respecter cette raison d'être ou bien tout cela n'aura-t-il été que de l'affichage, à moins que cette disposition de la loi Pacte ne soit complètement abandonnée par des entreprises qui n'auront pas retrouvé leur rythme de croisière.
Anne-Laure Chouin, merci. L'écho d'après sur la raison d'être des entreprises à retrouver sur franceculture.fr sous la forme d'un entretien développé. Depuis 70 ans, la pédocriminalité dans l'Église catholique aurait fait au moins 3000 victimes, un chiffre établi par la commission indépendante sur les abus sexuels au sein de l'Église. C'est l'épiscopat lui-même qui avait mis en place cette commission en 2018. Margot Delpierre, ce bilan de 3000 victimes n'est qu'une première estimation.
3000 victimes, c'est un minimum. Il y en a probablement bien plus. Jean-Marc Sauvé, président de cette commission, en est persuadé. Et d'après lui, il y a au moins 1500 auteurs d'agressions sexuelles sur cette période au sein de l'Église. C'est une première estimation obtenue grâce à des remontées d'enquêtes dans les archives des diocèses et des congrégations religieuses depuis que cette commission est en place. Elle a été créée il y a bientôt 2 ans par l'épiscopat français après plusieurs scandales, dont l'affaire Prena, ancien prêtre condamné à 5 ans de prison ferme pour agression sexuelle sur 2 jeunes scouts. La commission compte une 20aine de membres, des juristes, des universitaires et des professionnels de santé notamment. Elle a aussi mis à disposition une plateforme téléphonique pour recueillir des témoignages de victimes ou de témoins et en l'espace d'un an a reçu 5300 appels. Ce n'est pas fini, le calendrier a été modifié à cause du confinement. Il est possible de témoigner sur cette plateforme jusqu'au 31 octobre de cette année. La commission rendra son bilan et ses recommandations en septembre ou octobre 2021.
Margot Delpierre, merci. L'infirmière interpellée hier à Paris lors de la manifestation des soignants est sortie libre de garde à vue cet après-midi. Elle sera jugée le 25 septembre prochain pour outrage, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les images de son interpellation musclée ont fait le tour des écrans, suscitant souvent l'indignation. Cette femme de 50 ans a reconnu devant les policiers avoir jeté des cailloux en direction des forces de l'ordre, comme en attestent d'autres images. La France et la Turquie ont frôlé l'incident militaire en Méditerranée et Paris exprime officiellement son mécontentement vis-à-vis d'Ankara après l'Élysée dimanche qui dénonçait une politique turque de plus en plus agressive. C'est la ministre de la Défense Florence Parly qui fustige l'attitude du régime Erdogan. Elle doit le faire aujourd'hui lors d'une réunion de l'OTAN. À l'origine du coup de sang français, une frégate de la marine nationale prise à partie par un navire turc ces derniers jours au large de la Libye. Nathalie Hernandez.
Il y a une semaine, un cargo battant pavillon tanzanien quitte la Turquie pour soi-disant faire route vers la Tunisie avec du matériel médical. Sauf qu'il décide de camoufler son identité et se fait escorter par 2 bâtiments militaires turcs. Ce n'est pas la première fois. Plusieurs allers-retours de ce genre ont été détectés depuis le début de l'année avec des cargos qui en réalité déchargent des troupes et de l'armement en Libye. Ce 10 juin dernier, le commandement de l'OTAN dans la zone va demander à la frégate française Courbet en mission pour l'Alliance de se mettre en contact avec le bâtiment. Pour toute réponse, l'une des frégates turques va alors délibérément viser à 3 reprises le navire français, une posture qui, en théorie, est un acte de guerre et entraîne une riposte, ce que ne fera pas la frégate Courbet. Mais c'est l'incident de trop pour Paris, il y a un problème turc à l'OTAN, il faut le dire et le traiter selon le ministère des Armées. Si la France n'attend pas de déclaration officielle de l'OTAN, il faut l'unanimité des alliés pour cela. Elle espère en coulisses recueillir un maximum de soutien.
Nathalie Hernandez, hier la Turquie avait rejeté les critiques jugées inacceptables de Paris sur la présence turque en Libye. Ankara accuse la France de faire obstacle à la paix dans le conflit libyen. Michelle Bachelet, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dénonce les dernières violences raciales qu'elle qualifie d'héritage de la traite des esclaves et du colonialisme. Elle s'exprimait aujourd'hui à Genève lors d'un débat demandé par les pays africains après la mort de George Floyd aux États-Unis. Michelle Bachelet y voit un acte de brutalité gratuit, symbole d'un racisme systémique. Elle s'est dit également favorable à des réparations pour les victimes de ce racisme systémique. La notion de race est-elle utile? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. C'est désormais une certitude, la Covid-19 se propage à nouveau en Chine. Pour le moment, cette recrudescence est limitée à Pékin, où l'on a enregistré ces derniers jours 137 nouvelles contaminations. Mais les autorités chinoises évoquent une situation extrêmement dangereuse qui justifie un début de reconfinement. Ce nouveau foyer est apparu sur le marché de gros qui fournit la capitale. Le reportage de notre correspondante Dominique André.
Les rues de la capitale se sont vidées, les écoles ont fermé, les enfants ont repris leurs cours en ligne et restent à la maison comme l'ont conseillé les autorités. Près de 70% des vols ont été annulés aujourd'hui. Monsieur Wang, un retraité, promène rapidement son chien. Il a remis son masque sur le nez et a décidé de patienter.
Le contrôle du gouvernement est strict. Il nous conseille de ne pas sortir si ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas se faire du souci pour rien. Depuis l'apparition de l'épidémie, le gouvernement a eu de l'expérience et a pris des mesures. Beaucoup de gens sont dépistés. Notre résidence nous a interrogés par l'application WeChat pour savoir qui est allé sur le marché.
Près de l'une des plus grandes boîtes de nuit pékinoises, des commerces tentent de survivre depuis des mois. Le patron d'un petit restaurant dîne avec ses employés assis sur un tabouret dans la rue. Il espère attirer des clients.
On a mis les tables dehors, mais on a très peu de clients. Les boîtes de nuit du quartier sont fermées. Tous les soirs, on attend les clients. Avant, ce petit restaurant accueillait une centaine de clients. Maintenant, c'est la moitié. C'est très dur. On commençait à avoir de l'espoir, mais l'épidémie est revenue. Tout s'effondre.
Une campagne de dépistage et de traçage massif est en cours. C'est la chasse au coronavirus.
Dominique André, notre correspondante à Pékin. En revanche, en Italie, la situation sanitaire s'améliore à tel point que les épreuves du bac italien ont débuté aujourd'hui pour 500 000 élèves. L'Italie est l'un des rares pays à ne pas avoir rouvert ses écoles, mais le gouvernement a quand même décidé de faire passer l'examen du bac en présentiel. Depuis ce matin et jusqu'au début juillet, pendant une heure, chaque élève passe un grand entretien devant un jury dans le strict respect des mesures barrières. Le reportage de Bruce de Galzin au lycée classique Visconti de Rome.
Giulia est la première élève à sortir après son colloquio, son grand entretien d'une heure ce matin. Et Giulia est plutôt satisfaite.
Je suis vraiment contente. Je suis toujours très anxieuse avant. Et puis quand j'y suis, mon anxiété disparaît. Donc je n'ai eu aucun problème.
Giulia se jette dans les bras de ses amis venus la féliciter. Car ce bac est un peu particulier. Les futurs bacheliers doivent certifier qu'ils sont en bonne santé. C'est Guido qui accueille les élèves aux portes du lycée.
Vous pouvez entrer. Là, à droite, vous avez l'auto-certification et le gel pour les mains. Bonne chance.
Et puis direction la salle d'examen, aérée régulièrement. Les 6 membres du jury sont à 2 mètres de distance et portent un masque, tous, sauf l'élève, qui l'enlève pour être plus à l'aise. Lorenzo sort à son tour après son examen. Sa mère, Laura, est certaine que son fils obtiendra sa maturita. C'est le nom du bac en italien, la maturité. Un rite de passage dans l'âge adulte.
C'est l'examen de la maturité pour montrer que tu es une personne qui a grandi, qui est adulte désormais. Ce n'est pas seulement un examen pour réciter tes cours. Le plus important, c'est que mon fils mérite ce titre. Il obtient sa maturité.
Et cette année, ce grand oral compte pour 40% de la note finale. Le reste en contrôle continu.
Bruce de Gazin, notre correspondant en Italie. Rifat al-Assad, l'oncle du président syrien Bachar al-Assad, a été condamné aujourd'hui à Paris à 4 ans de prison, condamné pour s'être bâti frauduleusement dans l'Hexagone un vaste patrimoine estimé à 90 millions d'euros, patrimoine dont la justice française a ordonné la confiscation. Le tribunal correctionnel de Paris a sanctionné des faits qualifiés d'une exceptionnelle gravité. Le temps demain, toujours instable sur l'ensemble du pays, avec de fréquentes averses orageuses, mais les régions méditerranéennes continueront à bénéficier du ciel bleu. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 18 degrés du nord à la Méditerranée. Pour les maximales, comptez de 17 à 28 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.